France Inter.
Bienvenue dans Au Livre, etc. Aujourd'hui, nous explorons les territoires de l'absence et de la mémoire avec deux écrivains qui ont le talent de transformer le deuil en lumière.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
J'aurai le plaisir d'accueillir d'abord l'écrivain Mathieu Simonet, ancien avocat, ancien président de la Société des gens de lettres. Il s'intéresse de près via des ateliers d'écriture, notamment aux expériences littéraires collectives, on en parlera. Mais si on le reçoit aujourd'hui, c'est pour son 8e livre, Le grain de beauté, publié chez Philippe Ray, un récit très fouillé, détaillé sur sa vie avec son mari Benoît, disparu en 2020. Dans ce livre, Mathieu Simonet se fait l'archiviste d'un dossier médical tenu pendant 25 ans pour en extraire une médecine narrative, c'est-à-dire qu'il transforme des comptes rendus cliniques en puzzle intime. C'est un texte passionnant, documenté, qui revendique une liberté de deuil contre les conventions sociales. Puis nous nous pencherons sur le nouveau projet de Pascal Quignard, immense écrivain et lauréat du Prix Goncourt 2002. Il vient inaugurer les éditions Hardy avec un ouvrage au titre emprunté au dernier vers d'Émilie Brontë, Il n'y a pas de place pour la mort. Entre les ruines du Havre de son enfance et la musique de Chopin ou de Purcell, Pascal Quignard nous livre une méditation fragmentée où les fantômes chancellent, et c'est comme ça qu'on les reconnaît, un objet livre singulier qui dissimule même via un QR code à la fin les secrets de sa propre création. Vous l'aurez compris, qu'il soit question de décrypter un dossier médical ou de dialoguer avec les ombres du passé, Mathieu Simonet et Pascal Quignard partagent une expérience commune, faire de l'écriture le lien entre le royaume de la création et le royaume de l'absence. On parlera de tout ça avec eux et avec nos libraires francophones qui nous accompagnent chaque semaine pendant l'émission. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Mathieu Simonet, Pascal Quignard, bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, je suis très heureuse de vous recevoir pour vos romans qui parlent tous les deux de la mort avec un souci de recherche formelle, hybride, fragmentée. Comment ces formes se sont imposées à vous? Et est-ce que ça signifie qu'on ne peut jamais parler de la mort sans tourner autour, Mathieu Simonet?
J'ai l'impression que la mort, c'est un peu comme le soleil, on ne peut jamais le regarder pour de vrai. Et en même temps, on a besoin d'essayer de trouver une place pour se sentir bien avec la mort. Parce que l'enjeu, justement, c'est de pouvoir se sentir bien avec la mort. Et j'ai l'impression que de temps en temps, il y a des livres pour lesquels on a un sujet, et les choses paraissent assez claires. Et il y a des livres sur lesquels on ne peut pas avoir... La mort n'est pas en soi un sujet, et on est obligé de faire des tentatives littéraires. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu besoin de faire des strates pour travailler ce livre. Et après, de faire un montage, comme un documentaire, avec toutes ces strates qui avaient été accumulées pendant 5 ans.
Pascal Quignard.
Oui, c'est très vrai ce que vous dites de votre livre. C'est très. Moi, c'est comment dire, pour toucher la dernière sortie possible pour nous. On sort, c'est la mort. Et alors, c'est une suite de sortir. La naissance, c'est un sortir. Les premières fugues, les premières amours, les premiers départs, les commencements perpétuels de tout. On sort. Puis après, bon, un jour, le sortir s'interrompt.
La mort, c'est une forme de commencement pour vous?
Non. C'est un sortir qui s'arrête sur lui-même et qui est inatteignable d'une certaine manière. Et malheureusement, il peut laisser, comme dans votre livre, une immense souffrance pour ceux qui y survivent, mais dont le mort est épargné, si j'ose dire, de sa mort.
Et pourtant, vous faites un lien entre la naissance et la mort. Vous parlez vraiment de ce royaume premier qui est le royaume de la vie utérine. Comment vous liez les deux?
Ça, c'est une invention qui n'est pas de moi. C'est la tradition psychanalytique qui a... Et c'est très émouvant, c'est très étonnant. Les philosophes disaient que la mort n'existait pas, et les psychanalystes ont dit non, c'est pas vrai, il y a le trauma de la naissance, il se passe là, comment dire, une déréliction, on souffre du froid, de l'air qui arrive, non seulement le malheur, mais il est vrai qu'un enfant, s'il était laissé seul, mourrait. Il y a donc une expérience de la mort qui se fait dans la toute petite enfance, et qui ne cesse de se produire jusqu'à la mort finale.
Avec le cordon ombilical qui est la seule frontière en fait entre la mère et l'enfant, qu'on coupe à un moment.
Qu'on coupe, et il y a une merveilleuse, comment dire, à la fin de sa vie, le moine Basho au Japon, décide de partir. Il ne peut pas rester chez lui, il ne peut pas rester auprès de son bananier ou dans son ermitage. Il faut qu'il parte tout le temps. Et puis, pas au lendemain de la mort de sa mère, un ou deux ans après la mort de sa mère, il va retrouver son frère et la maisonnette où il a vécu dans le petit hameau où il vivait. Et il va rechercher dans le trésor, comme dans chaque maison japonaise, le trésor où est conservé uniquement le petit tube ombilical. Et il lui parle en lui disant « Toi qui me faisais rejoindre maman ».
Alors pour vous, Mathieu Simonet, on n'est pas très loin en fait, parce que chez vous, votre projet, c'était vraiment d'extraire une part de beauté justement aussi de ce dossier médical assez froid. Et je voulais vous demander, que peut l'écriture contre la mort ?
Bien, j'ai l'impression que quand quelqu'un meurt, on a effectivement une grande souffrance et une grande solitude, et on a l'impression que l'histoire est finie. Or, l'histoire n'est pas finie. J'ai noté d'ailleurs dans votre livre que vous écrivez même « La mort est une entrée dans le monde ». Et donc l'idée que la mort, c'est aussi un nouveau départ sur certaines choses, et qu'on a la possibilité, notamment en enquêtant sur la personne disparue, en enquêtant sur tout ce qu'on ne savait pas de la personne disparue, c'est une façon de continuer de vivre avec elle. Et j'ai l'impression que l'écriture, ça permet à tout le monde, qu'on soit publié ou pas, à tout le monde de mener cette enquête. Et moi, ce dont j'avais envie dans ce livre, c'était de donner envie à tous les endeuillés d'enquêter sur leur mort, d'écrire sur leur mort, et ça apporte de la lumière.
C'est vrai que vous avez un sens, Mathieu Simonet, du collectif. Je parlais tout à l'heure de l'autobiographie collective. On a l'impression que vos livres sont aussi effectivement comme des micro-ateliers d'écriture qui peuvent inspirer d'autres lecteurs. C'est comme ça que vous l'imaginez ?
Oui, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'écrivain, c'est à la fois d'écrire des romans autobiographiques et de pousser tout le monde à se sentir légitime à écrire. Et donc, j'aime pousser, en parallèle de mes livres, les gens à écrire. Et par exemple, pour Le Grain de Beauté, une des choses qui m'a intéressé, donc le livre est construit en 5 chapitres, comme le livre de Pascal Thiers, avec les cinq étapes du deuil. Et je me suis rendu compte que ces 5 étapes du deuil, je ne les avais pas vécues telles qu'elles sont racontées dans les livres. Et donc, j'ai voulu me réapproprier ce cycle du deuil, faire un remake. Et à la fin, je propose à toutes les lectrices et tous les lecteurs...
Alors
Je spoil.
Faites une très belle transition. J'aimerais que vous nous lisiez un passage, le passage de votre livre, justement, où vous en parlez, qui commence par « Combien de temps dure le deuil ?»
C'est une question que je me suis posée à la mort de maman. Le deuil correspond-il à un cycle ou à un puits sans fond dont on ne reviendrait jamais ? J'étais très proche de ma mère. On déjeunait ensemble tous les dimanches, je l'appelais chaque jour. Ma vie était articulée autour de cette relation ombilicale et de deux autres personnes, Benoît et Anne-Sara, ma meilleure amie. Tous les trois constituaient les piliers de ma vie. Le premier venait de s'effondrer. Depuis les obsèques de maman, la vie avait perdu ses couleurs, tout était passé en noir et blanc. J'éprouvais même parfois l'envie de mourir. Pas tant pour rejoindre ma mère ou par désespoir, mais pour une raison plus prosaïque, par flemme. Parce que je n'avais pas très envie de connaître la suite. La vie sans maman m'ennuyait. Même la publication au seuil de mon premier roman, 6 mois après son décès, ne m'apportait pas un réel enthousiasme. J'étais devenu un mort-vivant. Et puis un jour, un de mes amis a prononcé ces phrases qui m'ont transformé. Le deuil dure 1 an, 4 saisons. Il faut que tu tiennes, que tu fasses le dos rond. Une année après sa mort, tu souffriras encore, mais tu ne te sentiras plus mort-vivant.
Mathieu Simonet, l'expression « faire son deuil », vous le dites, elle vous, je ne vais pas dire qu'elle vous agace, mais elle vous pose problème.
Oui, je crois que beaucoup d'endeuillés trouvent que cette expression « faire son deuil » n'a pas de sens, parce que faire son deuil, ça sous-entendrait qu'il y a un début, une fin, et puis il y a quelque chose d'un peu prosaïque dans faire son deuil. Or, je crois que le deuil, c'est quelque chose de très très singulier, qui ne s'arrête jamais, qui a des va et des viens, qui n'a pas de... C'est comme un jardin sauvage, le deuil, dans lequel on peut trouver une forme de joie, une forme de paix, une forme de tristesse aussi, bien sûr. Et donc, faire son deuil, c'est quelque chose qui ne colle pas. Pour autant, je considère qu'il y a quelque chose dans le travail de deuil qui est intéressant, et pas tant dans le travail de deuil, dans le processus de deuil. C'est une expérience, et une expérience qui appelle une liberté du deuil. Et j'ai l'impression que quand on est en deuil, au début, la société nous enveloppe, et c'est extrêmement agréable et important dans les obsèques. Mais assez vite, on est corseté, un peu comme à la cour du roi. On doit respecter certaines règles, certains codes. Et c'est important de se sentir libre de tout faire voler en éclats et de vivre son deuil comme on le veut, avec une forme de folie, de fantaisie, de surprise. Il y a beaucoup de surprises dans le deuil. Moi, j'ai vécu aussi une belle expérience, et je vis une belle expérience, et je continuerai de vivre une belle expérience avec le deuil de ma mère et le deuil de Benoît.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, Pascal Quignard, de cette expression « faire son deuil » ?
Je n'aime pas le mot « faire », en tout cas. Bon, c'est pas comme un menu que l'on fait ou un repas qu'on prépare, non, c'est une... Mais je trouve très, très, très beau ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas savoir combien c'est juste aussi. Il faut malheureusement avoir vécu longtemps pour se rendre compte que la réapparition de ce que nous avons aimé dans les rêves, et bien sûr est involontaire, mais elle est très surprenante. Et en vieillissant, ce sont même des arrière-grands-mères, des gens tout à fait inopinés qui reviennent, et qui reviennent à des âges que nous n'avons pas connus. C'est vraiment, je pense, que l'humanité a dû, comment dire, être extraordinairement effrayée au début, par la réapparition des proches ou des aimés, dans, très mystérieuses, dans la nuit, comme ça. Donc,
mais qu'est-ce qu'elle signifie, cette réapparition ?
C'est vraiment un très très grand mystère. Vous savez, il y a un mystère de la nuit qui est aussi très grand. Il y a eu quelques savants qui se sont intéressés aux rêves, le professeur Jouvet, enfin quelques personnes. Mais finalement, le monde de la nuit, le fait que nous soyons tout le monde, que nous soyons abattus, même Trump, même Poutine tombe de sommeil dans la nuit. On a tous dans une enveloppe de nuit, et dans cette enveloppe de nuit, ce surgissement assez monstrueux, ou béni, ou angoissant, ou cauchemardesque, de figures dont on ne savait pas en se couchant qu'elles réapparaîtraient.
Vous rêvez beaucoup, Mathias Simonet ?
Pas assez. Je sais qu'une de mes amies qui a perdu son père m'expliquait qu'un jour, dans son rêve, elle a retrouvé son père et elle savait qu'il était mort, donc elle pouvait le prendre dans ses bras. Et ça a toujours été mon fantasme, et pour ma mère et pour Benoît. Et j'ai déjà rêvé de ma mère et de Benoît depuis leur mort, mais je n'ai jamais rêvé en ayant conscience qu'ils étaient morts pour pouvoir savourer entièrement ces retrouvailles.
Mathieu Simonet, Pascal Quignard, on revient dans un instant. On continuera à parler de toutes ces questions. Est-ce que le travail de deuil existe vraiment ? Est-ce que c'est possible ? On en parle, mais d'abord on écoute Feu Chatterton, Le Labyrinthe.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis. Marcher, courir, nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe. Sans chercher d'issue, tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre, tu te promène celle dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sois sans hâte, sois sans crainte, reste un peu ici, la porte joliment peinte, on tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais, tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau,
aller, car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Tu crois que tu vis, mais c'est ainsi qu'on meurt. Du piège où tu es pris, tu fais une demain. Laisse-moi aller, car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Le labyrinthe. Le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie des écrivains Pascal Quignard et Mathieu Simonet. Chaque semaine, nous recevons dans l'émission des libraires francophones qui vous ont lu. On part tout de suite au Québec retrouver Katia Courteau de la librairie Le Porte de Tête à Montréal. Bonjour Katia.
Bonjour Lilia.
Alors vous, vous êtes une fidèle lectrice de Pascal Quignard et ce nouveau roman est une nouvelle et belle grande surprise pour vous.
Absolument. Alors, Pascal Quignard, quel magnifique roman vous m'avez offert, une joie suspendue. C'est d'une beauté, d'une force et d'une douceur inouïe. J'ai adoré me laisser porter une fois de plus, évidemment, par votre sublime écriture qui se déploie ici, d'un personnage à l'autre et d'un lieu à l'autre avec tant de poésie. J'ai aimé cette liberté que vous prenez dans la forme de ce roman où plusieurs histoires se côtoient. Qu'il soit question, entre autres, de pianistes, d'enfants, d'amoureux ou même des sœurs Brontë, en multipliant les scènes, vous faites voyager votre lecteur là où il n'y a pas de place pour la mort, c'est-à-dire à l'intérieur même du vivant. J'ai été saisie par chacune de ces histoires qui, toutes, donnent envie d'ouvrir le regard et notre présence au monde. Je n'avais pas compris, je vous l'avoue, que lorsque je suis en extase devant la mer, j'étire aussi, au même moment, le temps et l'espace, et je fais un pied de nez à la mort. Merci Pascal Quignard pour ce roman inoubliable.
Merci Katia, et vous aviez...
Merci mille fois, c'est délicieuse. Je ne sais pas quoi dire, mais merci.
Et vous aviez une question pour Pascal Quignard.
Oui, car vous écrivez ceci. La splendeur qui débouche de l'âge ressemble à celle de l'automne. On arrive dans l'origine, même si n'importe où est l'origine. Bien sûr, le crépuscule est aussi l'aube de la nuit. La mort aussi est l'origine du vide, si tout chemin mène à l'origine, surtout l'errance. Le motif de l'égarement est présent dans votre roman. Est-ce que se perdre est important, Pascal Quignard? Est-ce que cela nous met sur de meilleures pistes?
Oui. Ah, vous avez raison. Oui. Il faut savoir se perdre. Il faut savoir, comment dire, même pour pouvoir rester en contact avec les perdus, avec tous ceux qui sont perdus, et pour pouvoir, comment dire, regagner même ce mouvement de ne pas les abandonner, il faut savoir, pas les perdre, mais nous perdre vers eux. Lorsqu'on aime follement, on se perd aussi dans l'autre. Il ne faut surtout pas essayer de se garder de soi-même et de rester sur son propre rivage. Oui, il faut se donner comme... Oui, c'est beau ce que vous dites, comme lorsque vous regardez la mer, bien sûr.
Oui, oui. Ben, en fait, c'est un moment important, mais c'est au même moment comme si on atténuait le temps et que... C'est ce que vous m'avez montré dans votre roman, en fait, avec toutes ces multiples histoires. Précédemment, dans Trésor caché, il y avait, bien sûr, ce trésor que vous présentez. Ici, il y a une multitude de trésors que vous nous présentez et qui forment ce tout, en fait, qui nous permet d'arrêter le temps et de vivre le moment, et c'est magnifique.
De sortir du temps à chaque moment du temps. Ça serait le rêve, ça. Ça serait des extases, ça. C'est des extases. Merci encore.
Merci, Katia.
Merci.
Pascal Quignard, vous avez jamais peur justement de perdre la perte? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur?
Ah, pas du tout, non. C'est curieux, oui. Je ne sais pas pourquoi. Et même, je vous avouerai, ça, mais puis je ne parle pas de maladie, là, on va pas. Mais même quand j'étais un jeune violoniste, je m'évanouissais souvent. Et s'évanouir, sinon, c'est quelque chose qui est assez doux, qui ne présente pas d'angoisse. Je ne crois pas qu'on puisse. Mais je sais qu'il existe même des gens qui ont peur de tomber dans le sommeil, qui ont peur de rentrer dans le sommeil. Mais moi, cet évanouissement dans le sommeil me convient très bien, non.
Mais vous empruntez le titre de votre livre à Émilie Bondé.
Oui.
Il n'y a point de place pour la mort. Et je me demandais pourquoi vous aviez choisi cette affirmation aussi radicale pour ouvrir un livre qui explore sans cesse la disparition et les ruines.
C'est difficile de répondre avec dans la façon dont vous posez la question. Ce que je trouve très beau dans le mouvement d'Émilie Bronté, c'est que, voyez sa petite chambre à Avort, c'est juste devant le cimetière, où sa sœur, sa mère sont morts, etc. Et elle ne veut pas, je crois qu'elle était athée. Elle n'a jamais dit à son père révérend qu'elle ne croyait pas. Mais je pense qu'elle ne veut pas de tout ces séjours de la mort, cette conviction de la mort, ces sermons sur la mort. Elle ne veut pas. Elle veut pouvoir, comment dire, rester dans le... sortir sur la lande, sortir dans la naissance, sortir dans la vie. Elle sait qu'elle va mourir, mais elle veut aller jusqu'au bout de sa vie. Elle est un peu, je ne sais pas si vous aimez les animaux... Mais les animaux, enfin les chats, pas que les chats, tous les animaux, ils vont jusqu'au bout avec une sorte de... comme des bêtes coriaces. Mmh. Ils vont jusqu'au bout de leur vie, et puis ils lâchent. Mais ils ne laissent pas le temps de lâcher. Il n'y a pas de place pour la mort, c'est ça que ça veut dire. No room. Le mot qu'elle emploie, c'est room. Il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de lieu où s'installer dans la mort. Je ne parle pas du tout de la souffrance qui naît de la mort. Je parle pour l'endeuiller. Mais pour celui qui meurt, ah oui, il se crispe, et le petit chat, comment dire, a encore une sorte de désir de vie jusqu'à l'instant où elle s'interrompt.
Vous écrivez une très belle phrase à un moment, que je vois comme un parallèle justement à ce titre. « Nous ne sommes pas nés pour revenir un jour ». Vous parlez d'athéisme, donc vous ne croyez pas en la résurrection.
Non, on part, on perd. Non, je ne crois pas qu'on soit nés pour revenir un jour.
Sous aucune forme ?
Non.
Même pas dans... Mais si, dans les rêves. Vous avez parlé des rêves.
Mais même, je vais vous dire, même pas dans les rives, dans les livres que j'écris. J'écris parce que c'est une manière de vivre. J'ai besoin, en effet, de me perdre dans ce que j'écris chaque matin. Et ma vie est très belle. À 10h du matin, ma vie est finie et je peux faire ce que je veux. Je me perds dans... Mais ça n'est pas pour survivre, ça n'est pas... Comment dire, ça n'est pas... C'est une manière d'être.
Mathieu Simonet, vous qui faites des tableaux avec les étapes du deuil, que pensez-vous de ce que vient de dire Pascal Quignard ?
J'ai pensé plusieurs choses, mais tout d'abord je sais que Benoît était angoissé à l'idée de s'endormir.
Ah oui, voilà.
Justement, c'était le contraire de vous.
Ouais.
Et j'ai l'impression que dans le monde, il y a les personnes qui ont peur de la mort et celles qui n'y pensent pas, qui n'ont pas peur. Et c'est une chance de ne pas... C'est un peu comme des gens qui marchent au bord d'un ravin. Il y a ceux qui pensent qu'ils vont tomber tout le temps et ceux qui n'y pensent pas. Et moi, j'ai l'impression que je n'y pense pas. Et je trouve ça très beau, l'idée de s'évanouir. Je sais que dans votre livre, il y a une scène qui m'a énormément marqué parce que je trouve qu'elle résume ce que je pense par rapport à la mort. C'est une scène dans le taxi, lorsque justement le pianiste va décéder. Et il y a une espèce de douceur dans cette façon de décéder et d'absurde. Il y a quelque chose de l'ordre de l'absurde. Et en fait, j'ai l'impression que face à la mort, on est un peu comme des enfants et on pose des questions un peu absurdes. Et il y avait une question et absurde et émouvante. Il y avait une question que j'avais notée, parce que je note souvent plein de choses quand j'écris. Peut-on toucher la mort sur les morts ? Et c'est typiquement une phrase où si on me demandait de la décortiquer, d'expliquer ce qu'elle veut dire, je serais incapable de le dire. Mais je sais qu'elle me touche profondément. En fait, en lisant cette phrase... C'est comme une flèche qui touche à l'endroit qu'on ne peut pas atteindre quand on est au cœur du deuil. Et donc, je ne remets pas du tout en cause l'immense souffrance des endeuillés, mais je crois qu'il y a une forme aussi de volupté à des moments où on ne s'y attend pas. Il y a des moments d'énorme tristesse, à des moments où on est très heureux, et pour un tout petit détail... Et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre à un moment donné, justement à la suite de ce décès dans le taxi. Il y a une douleur qui arrive à un moment où la personne ne s'y attend pas du tout, tout revient. Et ça, je crois que c'est que tous les endeuillés connaissent cela. C'est totalement illogique et absurde les moments où on est effondré, mais c'est aussi tout aussi illogique les moments où on a un goût de vie incroyable.
Et c'est pour ça que la logique de ces étapes de deuil dont vous parliez, elle vous échappe complètement et que vous substituez vos propres étapes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation, qui sont les étapes du deuil, le modèle classique. Et vous, vous avez substitué ces étapes-là à vos propres règles.
Oui, mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que les cinq étapes classiques, elles ont été créées non pas pour les endeuillés à la base, mais pour les personnes en fin de vie. Et donc, c'est vrai que par rapport aux personnes en fin de vie, je comprends beaucoup mieux la question du déni, la question du marchandage, la question de « je ne fumerai plus jamais, mais je veux en vivre un peu plus ». J'avoue, je comprends moins ce cycle pour les endeuillés. Néanmoins, il y a des personnes qui me disent que ce cycle leur fait du bien. Et je pense que la question, c'est pas tant de savoir si ce cycle est vrai ou faux, c'est est-ce qu'il nous parle et est-ce qu'il nous fait du bien. Parce que finalement, un cycle, c'est comme se raconter une histoire. Et donc, moi, je me suis dit, les histoires, c'est important. Je vais me réinventer une nouvelle histoire avec ces cinq phases. Et je vais proposer aux lecteurs et aux lectrices de aussi se dire, mais si jamais je prenais un peu de recul, si je devais définir les cinq étapes de mon deuil, que ce soit un deuil de 6 mois, de 2 ans, de 30 ans, de 40 ans, comme un jeu, comme un questionnaire de Proust, si je devais remplir ces cinq étapes, quelles seraient-elles
Et ces cinq parties.
C'est ça les cinq périodes. Et bien évidemment que dans 5 ans, je n'aurai pas les mêmes réponses. Moi, je crois beaucoup que face au deuil, on doit retrouver quelque chose de l'ordre de l'enfance et de l'ordre du jeu. Ce qui n'enlève rien à la souffrance, ce qui n'enlève rien à plein de choses.
Pascal Quignard, vous êtes d'accord?
Non, je comprends très bien, mais on peut presque... c'est ça, c'est inventer une narration, fait une autre narration. C'est un peu la même chose dans la psychanalyse, finalement. À une narration malheureuse, on substitue une narration nouvelle et un peu plus heureuse. Mais, là, vous l'avez dit à la fin, le rêve, c'est de ne plus avoir besoin de narration ensuite. Mais c'est très important d'en mettre une autre à la place de l'autre.
C'est votre objectif. Enfin, le mot objectif n'est pas très bien choisi, mais c'est un idéal pour vous d'essayer de trouver une forme de narration qui échappe justement à toute narration.
Oui, parce qu'on s'enferme sans ça. On s'enferme, on enferme sa vie. La vie est brève et il faut que l'expérience soit quand même la plus riche possible. Et donc, oui, je pense qu'il faut, encore sortir dehors. Il faut à chaque fois sortir dehors.
Y compris dans l'écriture.
Oui. Ah, c'est une manière magnifique d'ouvrir la porte ou la fenêtre. On ne sait pas ce qu'on va faire, on ouvre la fenêtre, on se met dans une autre époque, dans un autre monde, dans une autre... Mais pour celui qui est extrêmement malheureux, s'inventer une autre histoire est une chose très très utile. Et ensuite, mais il faut qu'il y renonce et qu'il y en aille fort, je crois.
Pascal Quignard, Mathieu Simonet, vous restez avec nous. Dans un instant, on abordera une question essentielle dans vos deux livres. On vient d'en parler, la question de la forme littéraire et de la liberté.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous des faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait? et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, nous sommes immortels. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Alain Bachung, Immortel. Et nous sommes toujours en compagnie des écrivains Pascal Quignard et Mathieu Simonet. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Pascal Quignard, alors j'aimerais qu'on dise un mot de votre langue. Il y a un passage que je trouve sublime, mais bon, honnêtement, j'aurais pu vous faire lire tout le livre. Il est court, j'aimerais juste qu'on entende quelques phrases, si vous le voulez bien.
Au-dessous du glacier de la Meije, sous la puissance du soleil d'hiver, l'aube se transformait en brouillard. Elle était heureuse de conduire, mais plus le matin avançait, plus le brouillard s'épaississait. Il lui fallut ralentir tout à coup. Elle ne percevait pas grand-chose. Elle venait de quitter la vallée de la montagne. Elle roula en première pour monter dans un nuage.
Alors, c'est de la poésie. Et justement, vous ouvrez le chapitre 6 par ces mots. « Écris ce livre en sorte que ta vie pénètre en lui sans qu'elle mente. » Je me disais qu'il n'y avait que la poésie qui était capable de ça.
Oui, ça veut dire en tout cas que le destinataire a disparu. Et lorsqu'on n'a pas été trop aimé par sa mère, dans ce cas-là, ou par ceux qui ne sont plus là, on peut en effet commencer d'écrire, parce qu'il n'y a plus de destinataire. Mais qu'il y a quelque chose qui vous lira quand même.
Vous dites qu'il n'y a pas de destinataire dans les livres. Pourquoi on place toujours en exergue des dédicaces pour nos proches?
Peut-être pour se rassurer, pour faire plaisir, mais je ne crois pas que les livres soient adressés. Ils sont adressés à la lecture. Ils sont adressés à un regard invisible, à des yeux qui ne sont souvent plus là. Souvent, ça peut être aussi des gens qui ont existé, un professeur autrefois. C'est offert à un regard, mais un regard qui n'est plus là.
On écrit sous le regard de quelqu'un qui n'est plus là.
Sous un regard absent, oui.
Et vous, pourquoi vous écrivez ?
Et pour toucher ce regard, et c'est absolument impossible. Mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte vers ce regard. Il y a quelque chose... Je pense que le peintre aussi, il peint aussi pour être vu, mais pas pour être vu à un dédicataire particulier. Je ne pense pas, il veut... C'est affaire à... On parlait, comment dire, du retour de ceux que nous avons aimés dans les rêves. C'est aussi des retours, comment dire, adressés, mais un peu inutilement, puisqu'ils ne sont plus en vie. Mais les arts sont faits ainsi, je crois, oui.
Vous parlez du peintre, mais on peut aussi imaginer qu'à travers un tableau, le peintre essaie de se voir lui-même. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment d'écrire pour essayer de percevoir aussi quelque chose de vous-même?
Ah non, ce que vous dites est très juste, parce que, comment dire, quoi, dans l'œuvre de Rembrandt, par exemple, il ne cesse d'essayer de se comprendre lui-même en faisant d'admirables portraits de lui. Ça, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais pas du tout, moi, non, ça serait plutôt me perdre dans ce que j'écris.
Mais c'est l'abandon et la perte.
Mais oui, vous savez, c'est très agréable, c'est comme dans la musique, c'est beau aussi l'extase, c'est beau aussi de se perdre dans ce qu'on aime, ou dans un paysage, ou dans une... ou dans un nuage, comme cette femme dans sa voiture. C'est beau se perdre, non? J'aime bien ça.
Mathieu Simonet, vous, pourquoi vous écrivez?
J'écris pour... souvent, je dis que je suis dans la maîtrise en tant qu'avocat et dans l'abandon en tant qu'écrivain. Donc, je suis très touché et sensible parce que Pascal Quignard a dit. Et je crois que j'ai l'impression que l'écriture, c'est ce qui me permet d'être relié aux autres, mais pas parce que je pense à eux lorsque j'écris. Je crois au contraire qu'il faut penser à personne quand on écrit.
Sinon, vous êtes d'accord.
Sinon, ça, c'est impossible d'écrire. Et c'est... Je crois que quand on écrit, il faut se donner le mauvais rôle. Il faut essayer, justement, de faire plaisir à personne. Il faut surtout pas essayer de sociabiliser quand on écrit. Voilà. Par contre, l'écriture permet de faire des rencontres, bah, comme maintenant. Je vous rencontre tous les deux pour la première fois. Je crois beaucoup que l'écriture... C'est une espèce de passeport qui permet d'avoir des connexions avec des morts, avec des vivants. Et j'ai l'impression que quand j'entends... Moi, j'ai pas la foi, mais quand j'entends des gens qui ont la foi, ou des gens qui se droguent, et je me drogue pas, eh ben, j'ai l'impression qu'ils parlent d'une forme d'extase. Et cette extase, je la retrouve uniquement dans l'écriture. Et pas tout le temps. C'est-à-dire que ça marche pas tout le temps. Mais il y a certains moments, j'écris, et c'est pas forcément les meilleures phrases que j'écris à ce moment-là, mais là, il y a un moment d'extase, et c'est ce que je recherche, ce point qui arrive de temps en temps.
Ben, on le sent, vous parlez d'extase, vous parliez tout à l'heure de l'enfance. Il y a vraiment cette notion de jeu aussi dans vos livres. J'aimerais qu'on parle de votre projet au sens large. C'est quoi cette histoire de lettres de l'alphabet ? C'est encore, j'ai eu l'impression d'un jeu avec la mort.
Effectivement, je suis toujours en train d'essayer de retrouver des jeux, parce que il se trouve que moi, j'ai vécu à Sens, qui est une ville que Pascal Quignard connaît bien, et mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans, l'âge de raison, et j'ai eu l'impression que c'était la fin de l'âge d'or de l'enfance. Et j'ai l'impression que dans l'écriture, je recherche toujours à retrouver cette époque. À travers une forme de rituel, d'émotion. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de mettre quelque chose de ludique, pas pour mettre des paillettes sur la mort, mais parce que c'est comme si c'était un chemin de traverse, c'est le seul chemin de traverse que j'arrive à emprunter.
Et les lettres de l'alphabet, alors ?
Alors, les lettres de l'alphabet... Alors, c'est horrible, parce que les lettres de l'alphabet, je ne me souviens plus...
C'est la lettre R, vous disiez que...
Ah oui, c'est fou comme je vous lis. Oui, ben en fait, c'est une histoire vraie. C'est que à un moment donné, je me suis dit, souvent on m'expliquait qu'il y avait trop de personnages dans mes livres, et donc j'ai commencé à me dire, tous les personnages très très secondaires, je vais leur donner une lettre, et au lieu de leur donner la lettre X, j'ai décidé de leur donner la lettre Z. Et ça, c'était dans le premier livre. Puis après, j'ai décidé de leur donner la lettre Y. Mais sans expliquer la règle du jeu. Et donc, certains lecteurs, lectrices me disaient « Mais pourquoi il y a 4 fois la lettre T ? On n'y comprend rien. »
J'ai l'impression que c'est le même personnage. Et
ouais,
en réalité,
c'est le même personnage. C'est pas le même personnage. Et en fait, j'ai eu besoin... Donc là, pour le grain de beauté, j'arrive à la lettre R, parce que je descends l'alphabet. Et je me suis toujours dit, et je ne sais pas si ça sera vrai, je me suis toujours dit que quand j'arriverai à la lettre A, j'allais décéder, mais pas en me suicidant, j'allais décéder subitement.
Et vous dites que c'est à 86 ans.
Ben oui, parce que j'ai fait le calcul du nombre, j'ai calculé à peu près tous les combien, j'ai fait des statistiques, tous les combien je publie, etc. Donc j'ai pu faire des statistiques.
C'est tout ce qu'on lui souhaite, de toute façon.
C'est pas mal,
bonne générosité, ce type de boss.
Mais en même temps, je me rends compte que j'avais oublié cette histoire des lettres, qui est très importante pour moi, et donc je me dis, c'est fou, comme il y a des choses énormes qu'on oublie. Je suis un peu comme chez une psy.
Pascal Quignard, est-ce qu'on joue avec la mort quand on écrit ?
Ah non. Moi, je ne suis pas très joueur. Moi. Je comprends très 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 bien ce que vous dites, parce que quand on a eu une enfance heureuse, on aime bien les plaisirs de l'enfance, donc les jeux. Quand on a eu une enfance plus maussade, on préfère ne pas s'en souvenir. Et là encore, on s'enfuit et on s'évade plutôt qu'on ne jouerait.
Décidément, la fuite, la fugue. Ça, dans votre livre, en plus, vous parlez de la fuite et de la fugue.
Savez, c'est vrai par exemple, on dit le mot jeu est employé. Sauf si ça dépend. Par exemple, un musicien joue, vous jouez du piano. Mais pour moi, non, c'est beaucoup plus grave que du jeu. C'est magnifique.
C'est pour ça que vous aimez Chopin, c'est que vous aimez ce qui est grave.
Oui, parfaitement. Nocturne, c'est lui qui a inventé ça. Il l'a repris à un Anglais, mais il a quand même... C'est lui quand même qui a fondé cette possibilité d'un... La définition stricte, c'est un chant dont on a oublié les paroles. C'est une romance sans paroles, et mais qui chante quand même et qui est accompagné de la main gauche. C'est la définition pianistique du duo nocturne.
Mathieu Simonet, vous avez été lu par l'une de nos libraires. Il s'agit d'Aurélie Vergieux de la librairie Molière à Charleroi en Belgique. Bonjour Aurélie.
Bonjour Lydia, bonjour Mathieu.
Alors vous avez été retournée par le roman de Mathieu Simonet, Aurélie.
Oui, alors Mathieu Simonet, la sincérité désarmante de votre écriture m'a plongée au plus profond de votre intimité, de celle que vous avez vécue avec Benoît, votre histoire d'amour, vos disputes, vos désaccords, sans rien édulcorer, comme on est pourtant souvent enclin à le faire après le décès d'un être cher. Et vous racontez aussi l'indicible, la monstruosité de la maladie, et la mort quand elle nous nargue, qu'elle nous menace, quand elle s'approche, puis semble s'éloigner, fait baisser la garde, puis nous rappelle qu'elle n'est pas loin. La douleur ressentie lors de l'annonce de la mort de Benoît est tellement énorme que vous la vivez en plusieurs fois. Vous apprenez sa mort à plusieurs reprises. D'abord quand on vous rappelle d'urgence à l'hôpital, quand le médecin constate le décès, puis quand vous découvrez son nom sur le mémorial du cimetière du Père Lachaise.
Et je crois que ce qui vous a touché aussi, Aurélie, c'est la construction du roman.
Oui. Alors Mathieu, pour appréhender l'inconcevable, vous choisissez une forme hybride, un roman autobiographique. Les personnages et les faits sont réels, mais vous gardez une place pour l'imaginaire. Et la narration, elle est kaléidoscopique, elle est faite de rush de votre vie avec Benoît, entrecoupée de haïkus qu'il rédigeait, des chapitres très courts, quelques pages tout au plus, et le tout dans un désordre chronologique, mais numéroté de 1 à 174. C'est des contes surprenants. Pourtant, un début d'explication quand vous dites qu'étape par étape, le deuil semble moins long, comme lorsqu'on observe les numéros qui augmentent dans un ascenseur. Et je vous ai trouvé très touchant quand vous vous êtes demandé si vous étiez un mauvais endeuillé, parce que vous ne respectiez pas les étapes protocolaires du deuil telles qu'elles ont été théorisées. Vous faites votre propre chemin et vous laissez entrevoir au lecteur qu'il existe autant de formes de deuil que de personnes endeuillées.
Et on découvre justement que la musique fait partie de ces formes de deuil.
Oui, et je vous remercie aussi, Mathieu, pour les musiques que vous nous suggérez d'écouter pendant la lecture, comme un hommage à Benoît, dont c'était le métier. Merci de m'avoir fait découvrir la voix vibrante de Tamino, que je ne connaissais pas du tout, un musicien belge d'origine égyptienne. La perte d'un être cher est une épreuve que nous sommes tous amenés à vivre, et vous nous rappelez que même si chaque perte est singulière, et que chaque humain est seul dans sa douleur, il y a quand même toujours quelque part une main tendue et une source de consolation à saisir.
Alors sur la musique, je vous interromps juste un instant, Aurélie Vergieux, et je vous redonne la parole. Elle est très présente dans votre livre aussi, Pascal Quignard. Vous êtes vous-même musicien et vous écrivez, c'est très beau, que la musique est une façon de s'évanouir dans l'émotion. Vous parliez d'évanouissement tout à l'heure et vous racontez qu'enfant, vous vous évanouissiez fréquemment pendant vos cours de violon, comme si votre corps cherchait à mourir ou à s'absenter du monde par la beauté. Est-ce qu'on peut mourir de trop de beauté, Pascal Quignard ?
Pourquoi pas, c'était très bien ça. Un peu comme les pivoines sur leurs pieds qui s'effondrent d'un seul coup. Mourir de beauté, ça serait... Oui, ça serait très très bien votre idée.
On revient à Mathieu Simonet. Vous aviez des questions pour Mathieu, Aurélie.
Oui. Alors, même si les personnes sont réelles, à la fin du livre, vous dressez la liste des personnages selon leur ordre d'apparition, comme dans le générique d'un film. Et je me demandais pourquoi c'était important pour vous de décliner l'identité exacte de chaque personne rencontrée.
Bah tout d'abord, merci beaucoup Aurélie pour vos mots, ça m'a beaucoup touché. Et en vous écoutant, je ne connais pas votre vie, mais je me disais, voilà la preuve de la communauté des endeuillés. J'étais très touché par et je me rends compte que il y a des mots que j'arrive pas à prononcer pour parler du livre ou de cette histoire ou de Benoît, et quand d'autres utilisent ces mots avec douceur, avec finesse, avec une forme de grâce, ça me touche beaucoup, ça me console, ça me voilà. Donc merci beaucoup. Et par rapport à votre question, moi, je crois qu'un livre, comme un film, c'est une expérience collective. Il y a énormément de personnes qui participent à un livre. Et donc, je trouve ça important de mettre un générique de fin. Et puis, c'est presque un jeu. Voilà, je joue au réalisateur. Et après, très concrètement, je fais toujours ce que j'appelle, à 99%, une négociation avec mes personnages. C'est-à-dire que je préviens les uns et les autres et je leur demande s'ils ont envie d'être dans le générique de fin ou pas. Certains le souhaitent, d'autres pas. Certains veulent des pseudos. Donc ça me prend beaucoup de temps, ça me prend 6 mois, cette phase de négociation. Je suis toujours à la recherche d'une famille, d'une communauté. Et j'aime, à la fin d'un livre, dire au lecteur, aux lectrices qu'il y a une communauté derrière.
Merci beaucoup Aurélie. Vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour vos conseils de lecture. Mais d'abord, on écoute Marguerite Snipers.
Il y a des gens partout, j'ai le cœur qui devient fou, ça me fait tourner la tête. J'ai pas les applis, j'ai des petits papiers, mon numéro dessus. Tu t'appelles comment, ils font quoi tes parents, tu fais quoi ce soir? Viens, on fait pas semblant, perds pas notre temps, il va fermer le bar. Scan, check, inspect, flamme, reste, flag, red. Scan, check, inspect, flamme, reste, flag, red. Scan, check, inspect, flamme, reste, flag, red. Scan, check, match, yes. Je crois qu'on est plus beau au tout début. Quand on s'est pas encore embrassé, quand on s'est pas encore déçu. J'ai plus ce qui me plaît, mais je supporte pas de danser solo. J'ai des coups de cœur à tous les coins de rue, sur les trottoirs, les gens sont trop beaux. Trop beaux, trop belles, trop beaux, trop belles, trop beaux, trop belles, trop beaux, trop belles. Sniper, je tombe amoureuse à chaque jolie.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission, etc. Nous sommes toujours en compagnie des romanciers Pascal Quignard et Mathieu Simonet. Et avec nos libraires du jour, Aurélie Vergieux et Katia Courteau, c'est l'heure des conseils lecture de la semaine.
Au livre, etc. Lilia Hassel.
Katia Courteau, on vous a demandé quel livre vous conseilleriez à Pascal Quignard s'il entrait dans votre librairie, Le Port de Tête à Montréal. Et vous avez choisi le roman d'un auteur québécois.
Oui, absolument. Pascal Quignard, vous qui êtes sensible à l'ailleurs, j'ai tout de suite pensé à ce roman, Le Tranquille Affligé, de Gilles Jobidon, et aux éditions Bibliothèque québécoise, qui a été publié en 2019, d'abord chez Le Méac, et Bibliothèque québécoise, donc, est une édition en format poche qui se glisse très bien pour les voyages, alors... Cette histoire nous transporte en Chine, autour des années 1860, alors que la science commence à devancer la religion. Un ancien jésuite, Jacques Trévier, a pour mission de ramener du Nil de la mer d'Oman un maître teinturier qui possède les secrets pour créer les noirs uniques de Baal. Il y rencontre l'amour de sa vie, qu'il perdra plus tard aux mains de l'empereur qui en fait sa concubine. C'est avec une écriture ciselée, à la fois poétique, aventurière, historique, que Gilles Jobidon nous plonge aussi habilement au cœur des enjeux de pouvoir qu'au fond de l'âme humaine, c'est renversant.
Bon, on sent que vous avez vraiment aimé. Le titre, oui. C'est donc Le tranquille affligé de Gilles Jobidon.
Moi, je vais me mettre dans mon sac aussitôt. Et je trouve merveilleux le mot affligé. C'est un très beau
c'est
mot.
C'est beau, le tranquille affligé.
Oui. C'est très beau.
Ces allitérations en L. Et on termine avec vous, Aurélie Vergieux. Vous avez choisi, vous aussi, une autrice de chez vous, une autrice belge, comme conseil pour Mathieu Simonet, une autrice qui était finaliste du Goncourt cette année et que nous avons d'ailleurs reçue dans l'émission.
Oui, c'est vrai. Il s'agit du livre Le Bel Obscur de Caroline Lamarche, paru au Seuil. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le lire, Mathieu Simonet, mais moi, je reconnais dans vos deux récits la même sensibilité, la même attention à l'autre et la même conscience qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, aussi proche soit-il. Et il y a aussi, dans son œuvre comme dans la vôtre, la volonté de faire un travail de recherche sur une personne décédée, de retracer un arbre généalogique pour lier les personnages entre eux, puisque finalement, c'est toujours un peu de ça qu'il s'agit. Il s'agit de décortiquer la nature des liens qui nous unissent et qui forment le tissu social et familial de l'humanité.
Merci beaucoup Aurélie. Et j'ajoute que ce livre, Le Bel Obscur de Caroline Lamarche, c'est aussi un roman magnifique sur la relation entre une femme et son mari homosexuel. Et la question de l'homosexualité, elle est très importante dans votre livre, Mathieu Simonet. Je voulais quand même qu'on en dise un mot, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Mais vous évoquez notamment le mariage avec Benoît, qui intervient juste après toute cette période de la manif pour tous. Vous dites aussi que vous vous êtes mariée, vous, pour des raisons politiques. Et lui, c'était vraiment pour avoir le livret de famille, pour faire famille, comme on dit. Et les conséquences de cette histoire, puisque même à la fin, quand il sera question de déposer les cendres de Benoît dans le caveau familial, certains s'inquiètent que cette mort souille la famille. C'était important pour vous aussi de reposer ce contexte.
Oui, je me suis rendu compte que quand je me suis marié, c'était vraiment pour des raisons politiques. Je pense que si j'avais été hétérosexuel, je ne me serais pas marié. Mais je voulais que ça devienne banal de dire mon mari. Et je me souviens que quand on s'est marié, je trouvais ça bizarre de dire mon mari. Et aujourd'hui, ça me paraît très simple. Et lorsque Benoît était à l'hôpital et en soins palliatifs, j'ai réalisé à quel point ça donne de la force de pouvoir dire mon mari. Et c'est à quel point ça donne de la force aussi d'être veuf. J'y ai pensé parce que j'ai discuté avec beaucoup de parents qui ont perdu un enfant. Et il n'y a pas de mots pour parler des parents qui ont perdu un enfant. Il n'y a pas l'équivalent de veuf ou d'orphelin. Et j'ai réalisé à quel point avoir un mot, avoir un statut, ça ne console pas, mais ça donne une force supplémentaire.
Écoutez, en tout cas, c'est vraiment des passages dans le livre, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Merci Mathieu Simonet, merci Pascal Quignard, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission, je recommande vivement vos ouvrages. Mathieu Simonet, Le grain de beauté, publié aux éditions Philippe Ray. Un récit pour apprendre à, je cite, « vivre avec nos morts », en faisant de l'archive intime le matériau d'une beauté consolatrice. On ne peut pas lâcher votre livre quand on l'a commencé. Et j'en profite pour conseiller aussi le précédent, chez Julliard, qui s'appelle « La fin des nuages ». Parce que tout s'achète désormais dans ce bas monde, même les nuages qu'on ensemence, qu'on se vole entre états, et vous en avez fait aussi un de vos combats. Lisez également « Il n'y a pas de place pour la mort » de Pascal Quignard, qui inaugure les éditions Hardy. C'est une méditation fragmentée et océanique entre les ruines du Havre et le silence qui suit la musique de Chopin. Bref, c'est de la poésie pure, c'est sublime. On trouve notamment cette phrase qui me hante depuis « Il ne faut rien revivre ». Merci également aux libraires du jour, Katia Courteau et Aurélie Vergieux, ainsi qu'à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Jérôme Ragano à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle que Livre etc. est une coproduction de la RTBF, de la RTS et de Radio-Canada. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.